des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
Les effronter.
Avec Geneviève Petersen. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller très très bientôt au point de presse du gouvernement Legault comme d'habitude. Mais avant que tout ce beau monde-là s'installe, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens en ce moment, comme ces jeunes qui s'en vont célébrer trois choses au spring break américain, qui se frenchent à qui meumeu sur les plages, qui ont des rapprochements, hein, comme on dit dans certaines téléréalités québécoises. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, ces gens-là, s'ils consultent les médias ou s'ils font juste s'en sacrer et se penser à l'abri de tout. Mais il y a des claques qui se perdent. Il y a des contraventions aussi qui devraient se donner. Je ne suis pas trop pour l'État policier, mais en l'état actuel des choses, je pense qu'il devrait avoir davantage de surveillance et qu'on devrait vraiment empêcher ce type de réunion-là. Il y a des, puis je parle des États-Unis, mais il y a aussi des parties qui ont lieu un peu partout au Québec et plusieurs personnes m'envoient des photos et des courriels à l'appui. On va s'en aller tout de suite au point de presse du gouvernement Legault et on va analyser tout ça après avec Vincent Dessureau.
Quant à la COVID-19, aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan de la journée, je veux revenir sur le respect des consignes. D'abord, je répète, comme je l'ai souvent dit, la grande majorité des Québécois respectent les consignes. Et puis, je suis très fier des Québécois. Québécois m'impressionnent. Mais il reste qu'il y a des personnes actuellement qui ne respectent pas les consignes. Il y a des personnes qui font des rassemblements à moins de 2 mètres, de groupes de personnes. Il y a des entreprises qui n'offrent pas des services ou des produits essentiels qui continuent de fonctionner. À un moment donné, il faut mettre toutes les chances sur notre côté pour réduire la propagation du virus. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai envoyé et j'envoie un message aux policiers de la Sûreté du Québec, puis aux policiers des grandes villes, là, comme la SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on ne peut pas, là, actuellement, accepter qu'il y ait des gens, une grande majorité, qui fassent des efforts, puis que ces efforts-là soient anéantis parce qu'il y a quelques personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. Donc, les policiers vont distribuer plus d'amendes. Puis je le répète, là, les amendes varient entre 1 000 et 6 000 par personne. Donc, moi, je pense, là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. Donc, je demande aussi aux maires, mairesses des grandes villes, s'assurer que leurs policiers, là, que ça soit respecté. C'est sérieux. Il y a des vies qui sont en danger et si on continue d'avoir des rassemblements puis des entreprises qui fonctionnent alors que c'est pas essentiel, ben il va avoir des vies, on va avoir des morts. Donc c'est très 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 sérieux. Et ces morts-là, ça peut être, on ne sait pas, là, en bout de ligne, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre frère, là. Donc, soyons plus solidaires que jamais, soyons moins tolérants. Là. Il y a déjà des dénonciations, je pense qu'il y en a eu 7 000 hier aux policiers. Ben, les gens qui voient là, que les consignes ne sont pas respectées, je pense qu'on est rendu là. Maintenant, le bilan de la journée. Malheureusement, on a 3 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 36. Je veux offrir mes sincères condoléances aux familles, aux proches de ces 3 nouvelles victimes. On a maintenant 5518 cas. C'est une augmentation de 907. On a 365 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a maintenant 96 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 14. Pardon. Donc, comme vous le voyez, le nombre de cas augmente, là. Mais si on se compare, si on regarde les décès, parce qu'en bout de ligne, ça reste ça quand même qui est important, puis qui est l'objectif de limiter les décès. C'est certain qu'un décès, c'est un décès de trop. Mais quand on regarde en pourcentage de la population, on a beaucoup moins de décès au Québec qu'aux États-Unis ou que dans tous les pays en Europe, là. Donc, il faut que ça reste comme ça, mais pour que ça reste comme ça, il faut que tout le monde suive les consignes. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que notre réseau de la santé, il est prêt. Je vous disais hier, on a des lits, beaucoup de lits, contrairement à d'autres États dans le monde. Puis, ce qui est important aussi, puis ça, on a fait un exercice complet, les fameux respirateurs, là, ceux qui appellent en anglais les « ventilators ». Bien, on en a assez dans ce qui est prévu pour être le sommet. Donc ça, c'est, il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui peuvent dire ça, là. Dans notre pointe, on a assez de respirateurs. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, pour ce qui est des équipements individuels, les masques, les gants, les blouses, on a reçu quelques commandes. C'est vrai que ça arrive un peu à la miette, mais on est toujours autour d'une semaine, donc 7 jours d'inventaire. Puis ça continue d'arriver dans les prochains jours. Ça se peut que des établissements qui disent « moi, j'en ai pas pour 7 jours ». Ce qu'on essaye de faire à tous les jours, ça nous arrive de prendre des équipements qui sont dans un établissement qui en a plus que 7 jours, puis de l'envoyer dans l'autre établissement qui en a moins que 7 jours. Donc, soyons prudents, là. Je dis pas qu'il y en a pour 7 jours dans chaque établissement, mais au total, au Québec, on en a pour 7 jours. Bon, j'ai vu certains reportages. C'est vrai que ça joue dur dans certains pays. On les nommera pas, mais on joue, nous aussi, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant, il faut avoir des policiers, des gens qui suivent tout le transport. Mais inquiétez-vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe se rendent jusque dans nos hôpitaux ici au Québec. Mes remerciements du jour, tout le personnel de la santé, puis peut-être qu'on ne l'a pas dit souvent, mais je veux entre autres dire un mot sur le personnel qui travaille avec le docteur Arruda à la santé publique. On a des centaines de scientifiques, je pense que ça c'est un grand avantage qu'on a au Québec, on a des scientifiques qui à chaque jour nous font des recommandations. Moi je veux leur dire un énorme merci parce qu'ils travaillent jour et nuit. Bon, évidemment aussi, il y a tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir, avec humanisme auprès des malades. Je leur dis merci, mais je pense que ça prend un peu plus que des merci. Ça prend aussi des gestes concrets. Et cet après-midi, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et Danielle, la ministre de la Santé, vont annoncer une bonification salariale. On parle au total d'un montant quand même important, 287 millions de dollars, qui va venir bonifier le salaire de ceux qui sont en contact directement avec les malades. Puis, entre autres aussi, parce que je pense que c'est là qu'il y avait le plus de travail à faire, les préposés dans les résidences privées. Ça s'est beaucoup dit, là. Effectivement, ils ont un salaire très bas. On va augmenter leur salaire de 4 $ de l'heure. C'est important que les travailleurs des résidences dans le privé soient payés. Moi, je pense que quand on regarde toute cette bonification-là, là, je pense que j'ai jamais vu un groupe qui mérite autant une augmentation de salaire que ce monde-là. Là. Donc, ça sera annoncé cet après-midi de façon détaillée. Sinon, je finis avec mes trois priorités. Plus que jamais, on ne sort pas, à moins que ça soit absolument nécessaire. Donc, on ne sort pas. Je ne veux pas qu'on vide les épiceries, mais si vous êtes capable d'aller moins souvent à l'épicerie, c'est une bonne idée. Et quand vous sortez, même à l'épicerie, même dans vos marches, toujours 2 mètres, puis pas de regroupement dans les parcs. Et quand vous revenez, vous vous lavez les mains comme il faut avec du savon. Donc, moi, je suis convaincu que si tout le monde, mais je dis bien là, absolument tout le monde respecte les consignes, on va sauver des centaines de vies au Québec. Puis, gardons les statistiques comme elles sont, là, c'est-à-dire, moi, je suis fier de voir qu'au Québec, on a beaucoup moins de décès par million d'habitants qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Donc, il faut garder ça comme ça. Merci tout le monde.
Maintenant, quelques mots.
Une autre journée difficile. Vincent, quand même, hier, on n'avait pas beaucoup de cas de plus, en tout cas moins que plus tôt cette semaine. Là, aujourd'hui, on arrive avec 907 cas de plus. Ça fait mal.
Oui, 907 cas, là, alors qu'on attend le retour à la période de questions. Ouais. Mais effectivement, c'est tout un bon. Est-ce que c'était ce qu'on appelle du backlog? Parce qu'hier, on a peut-être eu un chiffre anormalement bas parce qu'on avait des laboratoires en retard sur les résultats. Ouais. Peut-être que ça va se rééquilibrer demain. Peut-être qu'on aura des explications dans les prochaines minutes de M. Arruda ou de M. Legault. 58 personnes de plus quand même hospitalisées. Ça, c'est quand même un bon pas mal. Et aux soins intensifs, plus 14. Donc, c'est pas des immenses chiffres, mais quand même, ça montre que, bon, aujourd'hui, les chiffres sont un peu plus négatifs. Et 3 décès. Donc, le bilan qui est à 36. Mais il faut dire qu'effectivement, au Québec, le bilan des décès est bas. Par contre, les grosses hausses de cas vont probablement se traduire, malheureusement, en plus de décès aussi dans les prochains jours. Il faudra voir cette tendance-là. Et on sentait que François Legault faut serrer la vis, là.
Attendez, là, il a durci le ton au début. Là, il a commencé par parler des gens qui continuent malgré tout à se réunir. Et là, il a invité les policiers à être plus sévères parce qu'il y en a des rassemblements un peu partout dans la province, à Montréal, dans les parcs. La mairesse qui a menacé de fermer justement ces espaces-là. On va aller tout de suite à la période de questions.
Quelle est la prochaine étape si les gens continuent de se rassembler, si les commerces continuent d'ouvrir? La prison, l'armée, c'est quoi la prochaine étape?
Bien, on a tous les pouvoirs via la santé publique, effectivement, de donner des amendes, de confiner des gens, de s'assurer qu'ils restent dans leur maison. Donc, finalement, là, c'est la dernière chose que je veux, que je souhaite. Mais il va falloir être un peu plus ferme et s'assurer que les consignes soient signées, soient suivies. C'est sérieux, là, ce qui se passe, là. C'est pas le temps de dire « moi, je crois pas à ça », là. Oui, ça se transmet d'une personne à l'autre assez facilement, face à face, là, à moins de 2 mètres. Donc, faites attention.
Vos propos d'hier sur les lieux d'hébergement pour aînés, votre oui. ton... a amené certaines personnes à se demander, coudonc, est-ce que vous êtes en contrôle de la situation dans ces lieux-là? Il y a des médecins en CHSLD qui nous disent même qu'on leur demande de limiter au minimum et à quelques rares exceptions les transferts vers les hôpitaux en raison de la crise pour éviter des souffrances inutiles notamment. En sommes-nous rendus à faire ce genre de choix?
Bon. D'abord, c'est jamais bon de transférer des personnes, changer d'établissement, des personnes, entre autres, âgées, qui prennent des habitudes puis qui sont désemparées quand ils changent d'établissement. Ce qu'on essaie de faire, et puis je pense que Daniel envoie de plus en plus de directives, vous savez, dans les résidences, entre autres privées, il y a beaucoup de personnel temporaire, il y en avait beaucoup qui travaillaient dans plus qu'une résidence. Donc là, on essaie de les faire travailler seulement dans une résidence. On pense que d'augmenter le salaire de 4 $ de l'heure, en tout cas, on espère convaincre des personnes qui travaillaient à temps partiel de travailler à temps plein. On isole les zones chaudes. C'est important aussi de dire que dans toutes les résidences où il y a des cas, les résidents, leurs familles sont informées. Donc, mais il faut, même les résidences où il n'y a pas de cas, faut faire comme s'il y en avait. Faut pas qu'il y ait de visite, faut faire attention. Puis c'est ça que tout le monde doit faire au Québec. On doit faire là comme si on l'avait, le virus, puis que chaque personne qu'on rencontre avait le virus. Puis c'est encore plus important dans les résidences de personnes âgées.
Et ça va se développer davantage de donner des soins sur place. Dans le contexte actuel, c'est primordial. Dans les CHSLD, même au niveau des résidences privées qui ont un certain personnel, de donner des soins sur place quand c'est possible, le plus possible, pour ne pas transférer la personne à l'hôpital. Mais si c'est requis, oui, on va transférer la personne à l'hôpital. Mais il faut donner les soins le plus possible sur place.
Merci. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda, on m'informe qu'il y a une première éducatrice de service de garde d'urgence dans une école de Montréal qui a testé positif à la COVID-19. Ce qu'on nous dit, c'est que le service de garde demeure ouvert malgré tout. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les procédures? Parce que ça inquiète évidemment les gens qui vont porter les enfants là-bas.
Mais écoutez, je connais pas ce cas-là en particulier. S'il vient d'arriver, là, c'est l'équipe de Montréal qui va le faire. Chaque situation est évaluée comme telle. Chaque situation est évaluée en fonction de quand est-ce que la personne a été malade, qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les contacts étroits. Fait qu'il va y avoir une enquête spécifique sur ce cas-là, puis les mesures vont être prises. S'ils n'ont pas encore fermé, entre guillemets, la garderie, comme vous dites, c'est qu'ils sont en train d'enquêter puis de voir la situation. Mais c'est clair qu'on ne placera pas des enfants à risque d'une situation. Il est possible que ces enfants... il faut voir l'histoire. Est-ce que l'éducatrice l'attrapait ailleurs? Est-ce qu'elle l'a attrapé d'un des enfants qui est là, peu symptomatique? Mais c'est cette enquête-là qui va permettre de le voir. Mais les choses vont être prises en charge pour investiguer ce cas-là, voir qu'est-ce qu'on fait avec les contacts pour contenir la situation. Je vais sûrement avoir d'informations sur quoi de particulier, là, mais actuellement, je n'ai pas de détails, mais c'est la santé publique de Montréal va s'en occuper.
Juste vous dire, là, je pense qu'on a 3 ou 4% des garderies qui sont ouvertes au Québec. Là, donc, il n'y a pas de raison de prendre un risque. Là, s'il y en a une qui risque d'être infectée, on va la fermer pour en ouvrir une autre.
Tiens.
On me dit, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu Doug Ford hier qui disait que la situation en Ontario est presque aussi sérieuse que celle de l'Italie et de l'Espagne. M. Ford a dit ça hier en conférence de presse. Est-ce que le fait que, de l'aveu même du premier ministre de l'Ontario, la situation soit très importante en Ontario, est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures pour faire en sorte de limiter encore plus les voyagements entre l'Ontario et le Québec?
Bon, d'abord, pour l'instant, les situations sont comparables entre le Québec et l'Ontario. Ils sont pas du tout comparables avec l'Italie. Là. Je peux vous dire que je lis ça attentivement, là, mais je vous donne juste 2 chifres. Au Québec, on a 4 décès par million d'habitants. En Espagne et en Italie, ils sont à 200. Décès par million d'habitants. On n'est pas dans le même... on n'est pas dans la même situation. Là. Et ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'on ne se rende pas là. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Puis, il y a des mesures qu'on a prises. Et comme je le disais tantôt, nos hôpitaux, contrairement à ce qui est arrivé en Italie, sont prêts. On a 6 000 lits disponibles. On a des respirateurs pour tout le monde. On n'est pas dans la même situation que l'Italie. Est-ce que, par contre, La vague risque éventuellement d'arriver, bien, il faut s'assurer qu'on soit prêt.
Prochaine question, Marie-Michel Sioui, Le Devoir.
Oui, bonjour à vous trois. Excusez, je cherchais ma question dans mon document. Les États-Unis, pardon, ont commencé à tester tous les professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., qui doivent se rendre dans plusieurs CHSLD en une journée. Il y a des employés ici aussi qui passent d'un CHSLD à l'autre. On en a parlé hier. Le CDC a aussi révélé qu'il y a des employés asymptomatiques qui peuvent être des vecteurs. Dans le contexte, est-ce que vous maintenez votre directive qui permet aux employés de retourner au travail après 7 jours? Puis est-ce que ce ne serait pas le temps d'envisager des tests ou même les tests rapides dont vous avez déjà parlé, Dr. Arruda?
Moi, je vais dire un mot, puis je vais donner la parole à Dr. Arruda par la suite. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on décide de faire là, actuellement, parce qu'on s'aperçoit là, qu'il faut faire un effort additionnel, c'est de réorganiser le travail. Quand vous dites là, il y a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui vont dans plusieurs résidences, on va essayer de concentrer dans une résidence le même personnel. Et on le fait maintenant. Là. On est en train de réorganiser le travail pour justement diminuer le nombre de personnes qui sont en contact dans une résidence donnée. La situation que vous invoquez où on a demandé à des gens de revenir au travail après 7 jours, des gens qui sont asymptomatiques, c'est à la marge. C'est pas fréquent qu'on fait ça. Mais on fait ça dans des circonstances exceptionnelles où est-ce qu'on pourrait avoir un bris de service, qu'il n'y aurait pas de service du tout pour les personnes âgées. Et on met toutes les mesures de protection, hein, le masque, laver les mains, prendre la température 2 fois par jour. Alors ça, c'est très, très important. Et je redis, c'est exceptionnel qu'on le fait. On est obligé de le faire dans certaines circonstances.
La première question, Vincent, qui est une question qu'on se pose tous et toutes, je pense. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas se rassembler? On faisait allusion aux amendes que les policiers peuvent donner, de 2 000 à 6 000 $ d'amende si tu te fais pogner à ne pas respecter les consignes. Est-ce que c'est le seul langage que les gens comprennent? Puis est-ce que l'armée va débarquer à un moment donné? C'est une question qui est légitime de poser à ce stade-ci.
Oui, bien, je pense que les gens vont être à ça. Là, clairement, je pense qu'il y a une demande. On le voit sur les courriels, on voit sur les gens qui nous appellent, qu'on dit OK, là, les policiers, je pense qu'ils ont peut-être laissé aller un petit peu pour justement que ça passe bien dans la population. On a vu Lévis aujourd'hui qui a décidé justement de serrer la vis. Et là, on demande au SPVM, là, rappelez les mots de François Legault, on demande au SPVM d'être moins tolérant. Là, donc, peut-être moins d'avertissements, plus de contraventions. Et François Legault a dit c'est tout ce qu'il mérite. Là.
Alors, c'est vrai,
parce que ça peut tuer du monde.
Mais à un moment donné aussi, ça va être compliqué aussi pour les policiers, je pense, de bien faire les vérifications. Exemple, une famille qui se promène ensemble, il faut que tu vérifies les liens de parenté. Un homme et une femme ou des couples qui se promènent ensemble, est-ce que tu vérifies leur adresse? T'sais, c'est quand même un méchant casse-tête. Là.
Oui, c'est sûr qu'ils vont y aller au plus évident. Là. Je pense que quand tu vois des...
C'est pas le temps de faire un barbecue au parc Laurier. Là.
Non, tu peux voir entre autres une gang de jeunes qui n'habitent pas ensemble, certainement pas eux autres. Donc, tu peux faire des vérifications d'adresse. J'en ai vu d'ailleurs au coin de rue, là, aujourd'hui, là, un groupe qui s'est agglutiné, les policiers ont parti, ont allumé les lumières, on dit et les gens se sont dispersés. Mais il faudra, puis je pense que la population le souhaite, qu'il y ait des contraventions. Donc on dit entre 1 000 et 6 000 $ 1 000, juste mais des coups de 1 000, là.
Non, ça fait mal.
Ça fait mal.
Il n'y
a pas beaucoup de monde qui peuvent sortir des 1 000 comme ça à gauche et à droite. Là.
Des questions aussi, parce que hier, le premier ministre de l'Ontario a quand même dit quelque chose qui a frappé l'imaginaire, là, que la situation pouvait se comparer à celle de l'Espagne et de l'Italie. Puis c'était un point d'ailleurs qui a été soulevé par le premier ministre Legault aujourd'hui. Si on compare, notre taux de mortalité demeure quand même faible. Fait qu'il ne faut pas paniquer avec ça.
Il faut dire que le taux de mortalité était aussi faible en Italie avant que le réseau soit saturé. Mais
on n'est pas là, là.
Mais il faut dire qu'on a tout fait pour éviter ce qui est arrivé en Italie. Et effectivement, là, on a les mesures en place, les mesures qui sont arrivées trop tardivement, parce que l'Italie, c'est pas qu'ils sont niaiseux, là, c'est qu'ils ont été pris de vitesse. Là. Nous, si on avait été pris avec la même vitesse que l'Italie,
oui,
ici, on
serait arrivé
la même chose. Exact. Nous, on a appris du désastre en Italie.
Attends, est-ce qu'on a vraiment appris? Parce que là, au niveau des équipements médicaux, quand même, il y a certaines questions qui peuvent se poser.
Oui, ben, on a appris. Il faut dire que l'Italie, c'est arrivé quand même aussi sur le temps. Je pense qu'à ce moment-là, les commandes, on essayait de s'organiser pour qu'ils entrent. Là-dessus, là, sur les équipements, François Legault a été clair, là, tout ce qui est masque, gants et blouses, on a encore une semaine d'inventaire. Donc hier, c'était une semaine, c'est encore une semaine, donc on comprend qu'il est arrivé un petit peu d'équipement, ça arrive au compte-gouttes. Il a expliqué quand même que oui, il y a un jeu international
ça
qui joue
dur.
Mais que nous, on jouait aussi. Là. Il dit, il y a des fois, il faut payer comptant, il faut s'assurer. Alors, il y a vraiment une guerre pour sécuriser des stocks. Et le Québec fait ce qu'il faut. Là. Donc, on comprend que aussi on retrousse nos manches puis on drop les gants s'il
on
faut.
On va jouer du coup, s'il le faut.
Exact. On n'a pas vraiment le choix. Et la question quand même qui est rassurante dans tout ça, parce que le bon de cas est élevé, les nouvelles sont pas très bonnes. Ce qui est plus rassurant, la question des respirateurs, là. Donc des équipements pour aider les gens à respirer. On dit qu'on en a assez, et même pour le sommet, là, ce qu'on n'avait pas, parce qu'on disait pour les équipements, le masque et autres, on disait qu'on en a pour les prochains jours, les prochaines semaines, mais là, on comprenait que pour un pic, là, on était loin d'en avoir assez. Mais pour les respirateurs, on est dans cette course-là, on n'y est pas. Là, parce qu'on dit des respirateurs, on en a, même si notre système s'engorge, on aura des respirateurs pour tout le monde, alors qu'il y a plus de 700 places aux soins intensifs qui sont disponibles, alors qu'on a 96 places de prise. On comprend qu'il y a eu un bond un petit peu plus élevé dans les dernières heures. Alors, à surveiller. Et l'autre point du point de presse, l'argent pour les travailleurs de la santé. 287 millions de dollars qui vont aller pour donc aux travailleurs de la santé en bonification. On va expliquer tout ça là, lors d'un point de presse cet après-midi avec le président du Conseil du Trésor. Et pour les préposés de résidence privée, bonification du salaire de 4 $ de l'heure. Ça fait quand même une différence, là.
C'était déjà quand même un enjeu pour les préposés aux bénéficiaires. On sait qu'on manque d'effectifs, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et là, par rapport à cette crise de la COVID, on s'imagine bien que c'est encore moins tentant d'y aller.
Bien, c'est sûr. Surtout que là, on a un 2000 $ offert par le fédéral. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller risquer sa vie?
Ben oui.
Et aussi, il faut dire, tu veux pas risquer la vie des autres. Là. C'est une pression que les préposés doivent subir. Nous, on fait attention dans notre quotidien. On peut risquer, là, si on est imprudent, je peux te contaminer toi, parce qu'on est, même si on est dispersé le plus qu'on peut dans une station presque vide, on s'organise pour pas toucher le moins possible à rien qui t'appartient ou qui m'appartient. Mais on comprend un préposé aux bénéficiaires. Tu dis, moi, si je vais faire mon épicerie, à un moment donné, j'ai touché à quelque chose, je contamine les gens dans ma résidence, je peux tuer des gens. Il y a une pression assurément qui est difficile à supporter pour certains, donc je pense qu'ils méritent assurément un bon salaire pour au moins qu'il y ait la question des « je vais-tu pouvoir payer mon loyer? » enlever un petit peu de soucis financiers à ces gens-là qui travaillent en fou.
Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux mesures d'hygiène, parce qu'à un moment donné, puis je me faisais cette réflexion-là, pas plus tard qu'hier, Vincent, je me disais, tu sais, à un moment donné, l'humain, on s'habitue à tout. T'sais, là, on est dans une situation d'urgence. Un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir une baisse de vigilance.
Oui.
C'est certain qu'on va moins se laver les mains, comme là, on va faire « bof! » Tu sais, c'est sûr que ça va arriver.
Ben, le fait qu'il arrive rien, parce qu'on voit ça aussi dans mes cours de pilotage, là, c'est que ça, à un moment donné, quand tu sors de l'école, là, t'as l'impression que ton moteur va arrêter.
Quand tu viens d'avoir ton permis de conduire, même affaire.
Ben, c'est ça, tu dis, il va m'arriver quelque chose, il va y avoir un bris. Une fois que t'as fait des vols ou que t'as roulé longtemps, tu baisses ta vigilance parce que la menace te paraît soudainement moins proche. Mais ça, il ne faudra pas baisser notre garde. Il faut dire qu'à Montréal, on a le rappel constant par le nombre de cas que à chaque jour, la menace est plus grande.
Mais elle est
à certains
invisible.
Endroits, elle est invisible, ouais. Effectivement. Mais il faut falloir se rappeler ça. Et ça, François Legault l'a dit, il faut être moins tolérant face aux autres qui ne prennent pas les mesures. Donc, on peut être un peu bête avec un membre de notre famille qui n'est pas respectueux des règles. On peut être un peu plus bête avec un collègue qui ne se lave pas les mains. Alors, collectivement, il faudra accepter ça.
Est-ce que du côté de chez Trudeau, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites aujourd'hui?
Bon, le centre du... Enfin, il y a deux éléments importants là, du point de presse de Justin Trudeau de son côté. Le premier, c'est encore pour lui l'équipement. Là. Donc, l'équipement, on en a reçu là, des masques dans les derniers jours, plus de 10 millions. Le problème, c'est que ça se dépense vite. On en a reçu juste il y a 1 million. Alors, on voit qu'il y a des arrivages qui arrivent. Par contre, la question des États-Unis est revenue avec ce cas, entre autres, au Québec, là, d'un arrivage qui est arrivé au Québec, qui est parti ensuite aux États-Unis.
Vers l'Ohio, je crois.
Vers l'Ohio, sans qu'on sache encore trop pourquoi.
On avait décrété des mesures d'urgence hier dans cet état-là. Donc, est-ce que c'est dû à ça? On ne le sait pas, mais quand même, ces fournitures-là qui ont été détournées.
C'est fort curieux. Justin Trudeau, ça l'inquiète. Il est préoccupé. On peut l'écouter.
J'ai vu avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu'il y aurait peut-être eu détournement. On est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des suivis. Je comprends la préoccupation du premier ministre Legault et d'autres gens. On va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer de ce qui s'est passé et surtout pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada.
Bon, alors on travaille là-dessus. Et la question aussi qui était quand même bonne au niveau des réserves stratégiques, là.
Ouais.
Pourquoi on a été pris de court comme ça alors que ça fait depuis même 2019, là, fin 2019, qu'on sait qu'il y a un virus dangereux qui se promène dans le monde?
Est-ce qu'on aurait pu mieux faire nos devoirs?
Oui. Est-ce qu'on aurait même pu, ça fait 5 ans que le gouvernement Trudeau est au pouvoir, est-ce qu'on aurait pu vérifier ça à un moment donné? Parce que c'est une menace que quand même des épidémiologistes dans le monde disaient qu'on n'était pas assez équipés et qu'on devrait s'équiper. Mais Justin Trudeau avoue qu'il y aura une réflexion à faire là-dessus dans plusieurs gouvernements, je vous laisse l'entendre.
Je pense que c'est quelque chose que bien des gouvernements à travers le monde vont avoir comme réflexion une fois qu'on passe à travers tout ça, et on va certainement apprendre énormément de choses par cette expérience, par cette crise.
Bon, Et concernant les modèles, est-ce qu'on devrait dévoiler les modèles aux gens? Ben, il est quand même assez prudent là-dessus, Justin Trudeau. Alors, explique. On verra au niveau provincial. Là, François Legault nous en a promis des modèles, des prévisions de ce qui s'en vient. Mais pour Justin Trudeau, l'important, c'est que c'est les actes que nous on fait là, et c'est nous qui va décider du destin là, du Canada plus que les modèles.
Ben, c'est fou parce qu'avec ces modèles-là, là, bon, on va en sortir un au Québec le plus probable, mais on peut rien garantir. Il y a un facteur inconnu qui est très grand en ce moment qui peut influencer la courbe dans un sens comme dans un autre. Donc, sortir un modèle qui va, en tout cas, invariablement être caduque si on veut, je trouve que c'est risky business quand même.
C'est comme la météo 14 jours. Là. Ce que vous allez choisir, si vous allez faire du ski ou pas, là, selon qu'annonce de la neige dans deux semaines, pas vraiment. Parce que ça,
c'est exactement le sujet de ma chronique de demain, puis j'ai fait une analogie avec la météo.
Ah oui, bon,
réellement,
ouais,
c'est ça que j'ai
dans
fait.
Tes pensées.
70% de probabilité d'averse, c'est un peu ça qu'on va vivre.
Oui, parce que la météo, on est capable peut-être deux jours d'avance d'être précis. Après ça, plus ou moins, c'est des grandes tendances. C'est pour ça qu'eux sont capables de tout relativiser ça. Là.
Et on prête le flanc quand même aux gérants d'estrade. T'sais, après ça, c'est facile de dire en regardant ça, « Ah, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça », mais cette courbe-là, justement, elle est variable. Là, ailleurs dans le monde, on a franchi quand même un cap important par rapport au nombre de décès.
Oui, 50 000 morts. Alors, c'est quand même un cap qui frappe. Là, ouais. Et le taux de décès continue d'augmenter par jour. Là, on était autour de 5 000 décès par jour présentement. 975 000 cas dans le monde. Alors, vous voyez l'autre chiffre, là, qui sera atteint bientôt, le million de cas confirmés dans le monde. Particulièrement, là, on surveille toujours les États-Unis qui ont déjà là, annoncé plus de 15 000 nouveaux cas, mais hier, c'était plus de 26 000. On verra si la tendance se poursuit. Juste pour vous montrer les hospitalisations, là, on a annoncé aujourd'hui au Québec 58 nouvelles personnes hospitalisées. Mmh. Juste pour vous donner une idée, là, dans l'État de New York, c'est 1150 nouveaux patients hospitalisés dans les dernières 24 heures. Donc, vous imaginez le réseau qui est déjà saturé et à chaque jour, tu rajoutes 1000 personnes là, que tu hospitalises. Alors, la pression sur les réseaux new-yorkais est immense, alors que le Canada, pour rester dans les chiffres, a dépassé donc les 10 000 cas. Avec ce qui a été ajouté au Québec, là, on est plutôt autour de 11 000 cas. Alors, c'est la situation actuelle. Peut-être dire comme... encore là, c'est pas super positif, mais c'est que l'Italie, on voit peut-être vraiment le plateau là, s'installer, un pic, avec encore là des chiffres de mortalité très élevés, autour de 800 morts par jour, mais c'est stable. On voit vraiment peut-être un certain plateau être atteint en Italie. Alors, on espère que ça commence même à baisser dans les prochains jours.
Merci, on te retrouve tantôt, Mario.
Merci, à tantôt.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
Au cœur de bien des discussions en ce moment, cette fameuse course à l'équipement médical, mais aussi ceux qui respectent pas les mesures de confinement. Parmi eux, des entreprises de recouvrement. On va tout de suite parler de tout ça avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête chez Québécois. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Geneviève.
Écoute, ça joue dur en ce moment au niveau du gouvernement pour avoir accès à de l'équipement médical. On parle entre autres des masques, des gants, des blouses, des visières. Là, c'est une véritable course pour avoir accès à ces produits-là. Et au niveau du gouvernement, on fait des appels pour avoir justement accès à ces stocks-là, mais c'est pas si évident.
Non, parce que c'est une course mondiale. Hein. On n'est pas simplement en concurrence avec l'Ontario ou même les États-Unis. On est en concurrence avec tous les pays européens, beaucoup de pays asiatiques aussi qui sont pas nécessairement sortis du bois encore. Donc, c'est à qui aura les meilleurs contacts ou qui aura la meilleure chaîne d'approvisionnement. Et on sait, spécialement les Américains sont très forts dans les réseaux d'échanges commerciaux. Alors, il faut avoir, comme on dit, des bonnes plugs. Alors, au bureau d'enquête, ce qu'on a fait dans les derniers jours, c'est qu'on a essayé de comprendre un peu plus quel genre d'effort le gouvernement du Québec fait. Et la bonne nouvelle, Geneviève, c'est que quand même, on va le dire, on n'est pas des pieds de céleri au Québec. On a quand même des équipes au ministère qui font bien le travail, qui ont été mises en place là, à partir du mois de janvier, quand on commençait à se douter qu'il allait avoir besoin d'équipements supplémentaires. Donc, il y a environ 200 personnes, c'est mon collègue Alexandre Billard qui nous apprenait ça ce matin, là, 170 au ministère de la Santé, une trentaine de personnes au ministère de l'Économie qui doivent donc trier les offres, lancer des appels sur les marchés à tous les fournisseurs. Puis ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que on cherche pas les masques ou les gants là, par dizaines, par centaines, par milliers. Là. Ça prend des cargaisons là, de 2 millions, 5 millions de gants, 2 millions de masques, etc. Donc, ce ne sont pas des petites commandes. Mais ce qu'on comprend, donc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont déployés au niveau du gouvernement du Québec. Ça fonctionne. Là, il y a certaines commandes qui ont été reçues, entre autres, on nous parlait que plusieurs millions de gants ont été livrés le 31 mars, donc il y a deux jours. Ça a donné un peu de répit. Là. François Legault parlait de 3 à 7 jours, puis là, finalement, hier, il a dit, bon, ben là, c'est une semaine.
Mais c'est pas long, une semaine, Jean-Louis, là, quand même, les gens capotent, surtout qu'on apprend qu'il y a des fournitures, je pense, entre autres, à ces fameux masques N95 qui sont faits pour protéger les travailleurs de la santé, qui avaient été commandés de la Chine par un entrepreneur chinois de Montréal, puis qui ont été renvoyés aux États-Unis après avoir été livrés au Québec. Les États-Unis, quand même, qui se livrent à une guerre, justement, pour avoir accès à ces produits-là. Ils ont racheté aussi une commande direct sur un tarmac en France. Ça, c'est inquiétant, là.
Il y a tout un flou présentement autour de l'importation des masques. Quand on regarde, bon, tout le monde le sait, là, c'est possible en ligne maintenant d'avoir accès. Ta commande est rendue où en temps réel? Là. Et ben, donc, dans le cas de cet entrepreneur-là de Saint-Lambert sur la Rive-Sud, ben, lui, clairement, attendait 10 000 masques. Donc, l'équipement depuis dimanche passé était... Quand on allait sur le site web de DHL, c'était écrit, bon, ben voilà, c'est arrivé au Québec, on attend de pouvoir avoir accès aux boîtes, de les ouvrir. Et là, mercredi, comme par hasard, ça retourne, ça, toujours selon le site web, aux États-Unis. Là, DHL semble dire ce matin, non, c'est une erreur d'étiquetage, ça n'a pas été retourné aux États-Unis. On sent que j'ai bien hâte de les voir. Ces boîtes-là, on n'a pas encore personne n'y a encore eu accès. Là. Mais donc, il y a toute une confusion autour de ça. Puis ça ne serait pas surprenant, effectivement, là, que dans certains cas, lorsque, par exemple, un importateur peut donner le paiement immédiatement, payer cash plutôt qu'à crédit, ben, qu'on priorise, par exemple, les gens qui ont des liquidités immédiatement pour payer ces masques-là. Ça ne semble pas être le cas pour la cargaison qui devait arriver de 10 000 masques là, dont on parlait ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Mais tout ça pour dire que chacun y va là, de ses contacts, de ses plugs là, un petit peu partout à travers le monde pour se faire venir de l'équipement le plus rapidement possible.
Oui, Jean-Louis, puis par rapport à ces plugs-là, justement, on voit circuler un peu partout des gens qui prétendent avoir accès à ce matériel-là, mais la préoccupation qu'on a en ce moment par rapport justement à ces fameuses plugs dont on parle, c'est la qualité aussi du matériel qui va se rendre jusqu'à nous. Là. Comment s'assurer, par exemple, que ce ne sont pas des copies, que ce ne sont pas non plus que c'est pas du matériel qui a été fait avec des matériaux de moins de qualité. Ouais. C'est quand même un enjeu majeur. Là, on parle de protection des malades, de protection du personnel de la santé?
Bien, effectivement. Puis les produits qui sont importés, par exemple, que le gouvernement du Québec peut acheter, doivent être certifiés. Hein? Donc, c'est Santé Canada qui certifie le matériel. Mais on doit être bien prudent, par exemple, d'avoir un fournisseur de confiance.
Si tu parles avec
un fournisseur depuis des années qui te fournit toujours du matériel satisfaisant, ça va. Mais là, quelqu'un qui sort un peu de nulle part qui dit hey, « Moi, j'ai un produit... ça vient d'un obscur distributeur en Chine dont tu n'as jamais entendu parler. On nous le disait, une source nous disait...
Ouais, les Chinois qui sont aussi les champions de la contrefaçon, là?
Ben oui, mais ça a l'air qu'il y a des faux produits russes aussi.
Okay.
Ou des mauvaises certifications, c'est-à-dire la compagnie prétend que la certification, puis là, tu te renseignes auprès de Santé Canada, puis t'achètes un peu vite, t'as pas vérifié que l'entreprise était bel et bien certifiée, tu te retrouves avec la camelote. Donc, effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a 200 personnes au gouvernement qui trient ces offres-là, qui vont sur les marchés, parce que c'est facile de se faire passer un peu n'importe quoi.
Il y a des entrepreneurs québécois aussi qui désirent contribuer, qui disent, ben écoutez, nous, on a la capacité d'en fabriquer des masques, on peut fabriquer des blouses, mais encore, il faut qu'ils passent par ces étapes-là d'approbation, là.
Exactement ça, puis on sait bien là, que tout le monde a des bonnes intentions là-dedans. Là.
Ouais.
Mais par exemple, quelqu'un qui aurait la capacité d'en produire, qui produirait par exemple des vêtements, puis qui se disait « moi je veux donner un coup de main, je veux aider », ben c'est pas toujours facile. On avait le cas d'un entrepreneur ce matin, Pierre-Paul Biron, dans le Journal de Québec, qui rapportait bon, l'entrepreneur, lui, plein de bonnes intentions, là. Tu sais, je pensais que mon fournisseur, qui a toutes les certifications, pouvait m'en produire, mais finalement, on se rend compte que les contacts avec le gouvernement du Québec sont sollicités de toutes parts pour faire le tri. Qui est sérieux là-dedans? Qui ne l'est pas? Puis encore là, je le répète, là, quelqu'un qui dit je peux donner 5 000 ou 10 000 masques, là, souvent ces offres-là ne sont pas privilégiées. On préfère faire des ententes à coût de millions, 2, 5, 10 millions parce que c'est là que c'est vraiment profitable. Parce que 10 000 masques, là, c'est pas assez. Même, écoute, j'entendais François Legault il y a quelques minutes dans son point de presse dire des gants, là, c'est plusieurs millions de gants par jour dont on a besoin au Québec. Des masques également. Donc, c'est pas à coût de 1 000 ou 2 000 qu'on va régler le problème d'approvisionnement.
Puis peut-être aussi les laisser aux travailleurs de la santé, ces gants-là. Je vois des gens se promener à Montréal avec ces fameux gants bleus. Là, la plupart des personnes, on ne sait pas comment les utiliser, ces gants-là. On les enlève de la mauvaise façon et ça crée un faux sentiment de sécurité. Parlons rapidement, Jean-Louis, si tu veux bien, de ces compagnies qui ne respectent pas les mesures de confinement, des compagnies de recouvrement qui continuent d'essayer d'aller chercher de l'argent de leurs clients malgré que le gouvernement, en fait, ne considère pas ça comme un service essentiel.
C'est Hugo Jonca de notre bureau d'enquête qui nous révèle cette histoire-là ce matin. C'est assez troublant, hein? Alors que je pense que tout le monde, en tout cas tous les gens de bonne volonté font leur part, toutes les entreprises qui pouvaient le faire ont demandé à leurs employés, spécialement dans les services non essentiels, de travailler à distance. Ben, là, on apprend que des agences de recouvrement, donc les agences, par exemple, qui harcèlent littéralement au téléphone les mauvais payeurs, continuent de travailler. Puis on a des photos, là. Des gens là, semblent très peu se soucier, se rendre au bureau à tous les jours. Jusqu'à mardi, il y avait une agence de recouvrement à Montréal, le Boulevard Maisonneuve, le ARO. Mm. Eux autres, ils appellent des clients de Bell Canada qui ne payent pas leurs factures. Et puis, donc, on les voyait travailler comme si de rien n'était. Imagine-toi donc, Geneviève, qui a fallu que notre bureau d'enquête appelle chez Bell pour dire « Voyons donc, c'est pas un service essentiel, ça, pour que la compagnie de recouvrement ferme boutique puis décide finalement de renvoyer les employés chez eux. »
Mais il y avait Bell, il y avait Hydro aussi, mais j'en souligne, puis là, je veux pas faire du Bell bashing, là, mais quand même, Bell qui a décidé d'augmenter ses tarifs en pleine crise de la COVID-19, tu sais, ils n'ont pas eu trop le mémo, là, hein?
Non, puis là, bien sûr, la définition de service essentiel, là, c'est pas une question d'interprétation. Très clairement, le ministère nous le dit, les services de recouvrement, ce n'est pas un service essentiel. Puis c'est pas juste une question, là, on est capable d'être, on est humain là-dedans, là, c'est pas simplement une question de propagation du virus, là. On est dans une situation où il y a 1,5 million de Canadiens qui ont fait une demande d'aide parce qu'ils ont perdu leur emploi.
On peut-tu leur donner un petit break à ces gens-là?
Exactement ça. Je pense que le recouvrement là, puis les mauvaises créances, là, puis s'attendre un mois ou deux que les gens puissent commencer à sortir de chez eux puis se trouver un boulot avant de commencer à les harceler pour qu'ils payent les factures. Donc, c'est à la fois un problème, à mon avis, moral, évidemment de santé publique, mais aussi moral. Je pense que ces entreprises-là devraient se demander s'ils contribuent vraiment au bien de la société en harcelant les gens comme ça au téléphone, alors qu'on va avoir des chiffres de chômage jamais vus depuis très, très longtemps.
Moi, puis en même temps, ce qu'on a pu voir sur les photos qui ont été prises, c'est que les employés, non seulement étaient au travail, mais qu'ils ne respectaient pas le 2 mètres de distance. Puis il y a même des employés qui ont témoigné de façon anonyme pour dire que l'entreprise leur aurait fourni une espèce de laissez-passer si jamais ils se faisaient questionner. Quand même, il faut le faire. C'est de la mauvaise foi manifeste.
Mais effectivement. Puis là, on pense que le message est passé. Ça fait plusieurs cas comme ça que notre bureau d'enquête dévoile depuis une semaine et demie sur des compagnies de recouvrement. S'il y a encore une compagnie de recouvrement aujourd'hui, d'une part, qui fait travailler ses employés au bureau, je pense que là, le message est passé. Le gouvernement nous le dit, c'est inacceptable. On répète le message à tous les jours. Puis aussi, ben, même ceux qui le font à distance, il y aura peut-être des petites questions à se poser sur
le côté éthique de tout ça.
Exactement ça.
Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête. Je pense qu'on vous avait invité, par ailleurs, le public à vous faire part. Si jamais il était témoin de situations aberrantes comme ça, ils peuvent vous écrire.
Tout à fait. On a plusieurs journalistes. Là. Toutes nos équipes sont là-dessus pour encore plusieurs semaines.
Merci beaucoup.
Très bien. Salut, Geneviève.
Les effrontés.
Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
Les effrontés.
Il y a bien des parents qui trouvent ça très, très difficile difficile sur le plan humain, sur le plan de la gestion et de la conciliation aussi, travail-famille en ce moment, d'être en confinement avec leurs enfants. Imaginez les parents dont les enfants ont des besoins particuliers, dont les enfants ne sont pas neurotypiques. Aujourd'hui, 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Et il y a Jennifer McCarron qui a fait une sortie. Jennifer, qui est députée libérale de Westmount, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, qui fait une sortie par rapport à ce que traversent en ce moment les parents qui ont des enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. On s'en va tout de suite lui parler. Bonjour, Madame McCarron.
Bonjour.
Écoutez, je pense que c'est un défi pour bien des parents en ce moment que ce confinement là. Puis là, le but de cette affaire là, c'est pas de dire, tu sais, mon Dieu, de faire un concours entre lequel vit la situation la plus difficilement. N'empêche, pour les parents, les familles qui doivent prendre soin d'enfants handicapés ou d'enfants qui ne sont pas neurotypiques, ça peut constituer tout un défi. Vous avez des enfants, vous en avez 2, je crois.
Oui, mes 2 enfants sont sur le spectre de l'autisme, un de 16 ans et un de 18 ans.
Et ma première question, vraiment, elle va être très simple. Est-ce qu'ils comprennent, vos enfants, ce qui se passe en ce moment?
Ils comprennent, mais ils sont en désaccord total avec la situation.
C'est-à-dire?
Ils trouvent l'isolation très difficile, qui s'éloigne de l'école. Ce qui est une journée typique, la manque de stabilité pour eux est excessivement difficile dans ce sens-ci.
Mais oui, parce que pour les enfants, si on prend par exemple l'exemple de mes propres enfants, du jour au lendemain, qui ont été obligés de dire bye à leurs amis, qui ont vu tout en fait leur petit monde s'écrouler pour une période temporaire, mais quand même, je me dis, pour les enfants qui sont dans le spectre du trouble de l'autisme, vous l'avez un peu dit, là, le manque de routine, le changement, ça peut être vécu de façon excessivement difficile là, pour ces enfants-là.
En effet, puis quand on parle de l'isolation, déjà, c'est oui. Une population, des enfants qui sont déjà isolés de la majorité. Ils n'ont pas beaucoup de social dans leur vie dans plusieurs cas. Alors, c'est encore un plus grand manque de social, du quotidien. Et comme tous les parents, vous l'avez mentionné, le télétravail, c'est difficile. Comme députée, je travaille au quotidien toute la journée. Alors, je suis députée, je travaille, je fais de la thérapie, je suis maman, je suis le chef cuisinier, je suis monoparentale. Fait que c'est beaucoup de choses comme tous les parents, mais pour eux, je dirais que c'est le manque de distance sociale qu'on veut tous pratiquer, mais le manque de thérapie, le manque de soins qu'ils reçoivent aussi à la maison, et de ne pas oublier que tous les parents qui sont aussi les proches aidants, ça aussi, c'est lourd pour plusieurs de nos parents qui ont à concilier beaucoup travail, enfants, famille, etc.
Mais oui, parce que là, Madame McCarron, ce que je comprends, en fait, il y a bien des parents en ce moment qui sont inquiets par rapport au fait qu'on doit se transformer en quelque sorte en enseignant. Le ministre Robert, je vais nous dire que c'est pas le cas. N'empêche qu'à la fin de la journée, c'est quand même un peu ça qu'on vit. On doit les stimuler. Vous, en temps normal, là, quand on n'est pas en confinement, c'est quoi l'horaire de vos enfants? À quels services ils ont accès?
Bien, c'est sûr, l'école, c'est primordial. Ma fille qui va à l'école secondaire.
Mais c'est une école spécialisée ou c'est une école, entre guillemets, normale?
C'est une école, entre guillemets, normale dans le réseau public. Elle est en secondaire 5, mais elle a des soins au quotidien. À chaque jour, elle a de l'accompagnement. Elle a un intervenant qui l'accompagne dans tous ses cours, tous ses leçons. Alors, c'est comme un genre de soins puis de thérapie. Et comme parent, c'est sûr, c'est une aide formidable parce qu'il y a quelqu'un à qui je fais confiance qui prend soin de mon enfant pendant les périodes de l'école. Et aussi, elle a de la thérapie qui se fait à l'école. Mais pour mon fils qui va à Cégep, lui, ben c'est sûr, il y a un horaire qui n'est pas tout à fait le même horaire d'un jour à l'autre, mais c'est qu'il prend soin de lui-même, qu'il se lève, il a sa routine, il prend l'autobus, il connaît le chemin, il va aller à l'école, il rencontre des personnes à l'école, il y a des contacts réguliers à chaque semaine avec une intervenante à l'école qui va l'aider comme accompagnement scolaire pour lui. Tout ça, c'est manquant, là, c'est là. Communication par Internet.
Mais tout ça, c'est fini. Oui, c'est ça, parce que là, on a des professionnels qui offrent de la télémédecine, de la téléconsultation. Est-ce que c'est efficace avec vos enfants?
Mais mon fils est actuellement en session de thérapie.
Pendant qu'on se parle?
Chambre, OK. Pendant qu'on se parle, il est en haut en train de faire une session de thérapie. Fait qu'on fait de notre possible, mais il n'y a rien qui remplace la connexion avec une personne live en place. On ne peut pas remplacer une session d'ergothérapie ou autre type de thérapie que ces personnes ont besoin, surtout s'ils sont profondément autiste ou handicapé. On peut faire plein d'affaires à distance, on peut faire de la stimulation à distance, mais moi-même, comme accompagner mon enfant, je ne suis pas spécialiste dans l'ergo, je ne suis pas spécialiste en linguiste ou autre.
Mais c'est ça.
Ils ont vraiment besoin de ça.
Est-ce que vous avez peur, en ce sens-là, que vos enfants, puis là, encore une fois, on va mettre des guillemets, le régresse, ça veut dire qu'ils perdent des acquis et qu'il y ait des répercussions sur leur développement?
Bien, ça arrive déjà.
Qu'est-ce que vous pouvez constater, mettons?
Je dirais que dans mon cas personnel, mon fils, ça fait quelques mois depuis qu'il vit un bris psychotique. Alors, il a mal, il n'est pas bien. Il souffre énormément. Alors, les soins qu'il recevait au quotidien et à chaque semaine, là, c'est coupé. Alors, je dirais qu'il régresse, ça dégénère. Mm. C'est très lourd dans la maison. Je suis chanceuse que j'ai des amis extraordinaires puis une famille qui m'accompagne dans tout ça. Puis je sais qu'ils écoutent aujourd'hui puis maintenant cette entrevue. Fait que merci au fond de mon cœur de l'appui qu'ils m'offrent. Mais c'est pas évident. C'est très lourd dans la maison.
Est-ce que ça peut se traduire, Madame Macaron, par des comportements violents venant de certains enfants? Envers leurs parents,
absolument.
Je veux dire.
Oui, absolument. Puis c'est pas leur faute. Souvent, un enfant qui est non verbal, ils ont de la difficulté à s'exprimer.
Ouais.
Et quand ils ont un jeune homme de 17 ans, 16 ans, c'est quand même.
Oui, pleine grandeur,
un adulte.
Là. Ouais, ouais.
Ouais. Puis oui, ça arrive. Puis ça arrive dans plusieurs cas. J'ai aidé, j'ai accompagné plusieurs parents. Ça fait peut-être 2 semaines, même la semaine dernière, où il n'y avait pas le choix. Ils ont appelé la police. La police vient, ils vont mettre un enfant, ils vont manocler, ils vont l'amener à l'hôpital. C'est un appel au DPJ tout de suite. Mm. C'est très lourd pour ces familles-là. Puis c'est des familles qui sont là, ils sont à l'écoute, ils aident leurs enfants, ils accompagnent leurs enfants. C'est des bons parents.
Mais ce ne sont pas des professionnels, c'est ça qui arrive.
Non. C'est ça, oui. Exactement.
Là, vous avez parlé, et je trouve ça super important de le faire, de votre réseau de support. Comment on peut supporter les familles qui ont des enfants aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme?
Bien, dans les circonstances actuelles, je pense que c'est important de mentionner que pour que tout le monde suive les consignes de distanciation sociale, mais ça n'empêche pas de faire un appel auprès de ses proches aidants, les parents, appeler ses enfants ou ses adultes. Comme on dit pour nos aînés, tout s'applique pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont à risque, les personnes vulnérables. On peut faire du FaceTime, on peut faire du Zoom, surtout la technologie, on sait que ça fait le fureur avec nos jeunes, puis ça fait le fureur souvent avec les personnes qui souffrent d'un déficience intellectuelle, autisme ou autre. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour accompagner ces personnes. Moi, j'ai vu des gens, il y a des gens qui passent devant ma maison, puis ils me connaissent très bien, puis ils montent des affiches, puis ils font des bonjours, puis on se parle de la porte. Ça aussi, ça aide. Si on peut aider ces parents-là pour qu'ils sortent, même, je sais qu'on n'est pas supposé de sortir, mais il faut faire l'épicerie.
On a le droit de prendre des marches. On nous l'a dit.
On a le droit de prendre des marches. Oui, mais d'aider ces parents-là qui peuvent sortir juste pour faire une épicerie de 30 minutes, souvent c'est un répit nécessaire, un pause mental pour ces personnes-là. Alors, si vous êtes en mesure d'offrir de l'aide, faites-le.
Est-ce que vous avez des discussions avec le gouvernement en ce moment? Est-ce que vous estimez que vous avez assez de soutien au niveau gouvernemental?
Je pense que le gouvernement a beaucoup dans leur assiette. Je suis consciente de la réalité actuelle sur laquelle ils sont en train de gérer. C'est dur pour toutes les familles, mais je dirais que j'ai pas une communication avec eux par rapport à ce sujet. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le soulèvent pour dire on comprend que c'est des temps difficiles. Ne nous oubliez pas à l'intérieur de toutes vos discussions puis dans les plans qui sont à venir. Puis je dirais faut agir maintenant et pas plus tard, avant que ça devienne vraiment un gros problème, parce que le plus que ça dure, le plus difficile que ça va être pour ces familles.
Oui, puis on sait que la crise peut amplifier justement ces difficultés-là vécues par les familles. Jennifer McCarron, merci beaucoup de nous avoir parlé. Députée libérale de Westmount-Saint-Louis, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille et de clientèle vivant avec un handicap ou l'autisme et de droit de la communauté LGBTQ+. Je vous rappelle que c'est la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme aujourd'hui, 2 avril. Si vous avez des gens autour de vous qui ont des enfants qui ne sont pas neurotypiques, passez-leur un petit coup de fil, ne serait-ce que pour vous montrer solidaire, parce que ces familles-là passent par des moments difficiles en ce moment.
Écrivaine, blogueuse, scénariste et animatrice.
Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
On va continuer avec le sujet des enfants, parce qu'il y a bien des gens qui découvrent en ce moment que concilier famille et télétravail, c'est pas si évident que ça. Et là, on se demande, bon, si les écoles rouvrent pas cet été, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des camps de jour? Moi, j'aurais pensé que non, qu'il n'y en aurait pas des camps de jour, mais hier, comme plusieurs parents, j'ai été vraiment très, très, très surprise, et c'est un euphémisme que de le dire, de recevoir un courriel du camp de jour que mes enfants ont fréquenté l'été passé, un courriel qui m'annonçait en fait que les inscriptions étaient maintenues. Et je me suis dit, vraiment, dans ce contexte-là, on maintient les inscriptions. Et là, je comprends que les parents se demandent qu'est-ce qu'on va faire avec la situation en ce moment. Elle est changeante, mais quand même, j'ai décidé de sonder l'Association des camps du Québec. On va tout de suite parler à Anne-Frédérique Morin, qui est directrice générale adjointe de l'association. Madame Morin, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, j'ai été surprise. Je dois l'avouer, là, quand j'ai reçu ce courriel-là hier émanant du camp de jour qu'ont fréquenté mes enfants l'an dernier, de savoir qu'on maintenait quand même les inscriptions malgré la situation qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire le confinement, les écoles sont fermées. Là, on parle du 1er mai pour la réouverture. Force est d'admettre que c'est un scénario de moins en moins plausible. Chez vous, à la CQ, quel rôle vous jouez là-dedans et c'est quoi votre position?
En fait, le rôle qu'on joue là-dedans, c'est évidemment un rôle de soutien puis de conseil auprès des camps qui sont membres de l'association, ouais. Des camps en général aussi dans la société québécoise. Pour nous, c'est important en fait que les camps aient accès à des informations en première ligne. Donc, c'est là-dessus qu'on va vraiment miser pour nos camps. Au niveau de la position de la Sécu, c'est certain qu'on n'est pas pour ou contre des camps cet été. On va vraiment se fier avec ce que le ministère puis les autorités vont nous dicter. Par contre, c'est certain qu'il faut être préparé pour tous les scénarios possibles. Mmh. Donc, c'est là qu'on va outiller nos camps vraiment à répondre à ces différents scénarios-là pour être prêts, peu importe la réponse qui va être émise là, par les autorités.
Et là, vous avez sondé vos membres, Madame Morin?
Oui, exactement. On a sondé nos membres sur plusieurs questions, notamment sur la poursuite des inscriptions qui se faisaient actuellement, parce qu'il y a des camps qui font des inscriptions là, depuis le mois de novembre déjà, donc ça dépend des organisations. On voulait savoir est-ce qu'ils avaient continué, est-ce qu'ils avaient complètement arrêté, est-ce qu'il y avait des nouvelles demandes d'inscription qui rentraient. Et en fait, il y a quand même une majorité de camps qui gardent les inscriptions en ligne actuellement, notamment parce que c'est une bonne façon de voir en fait, de voir venir là, les demandes.
De sonder l'intérêt des parents, c'est ce que vous voulez dire, à envoyer leurs enfants
entre
là-bas?
Oui, mais l'intérêt des parents, mais aussi de répondre à la demande lorsque la demande arrivera, c'est-à-dire que il va falloir embaucher des animateurs si, quand il y a. Donc, il va falloir savoir combien d'enfants on pourrait être en mesure d'accueillir. Donc, les inscriptions peuvent nous aider là-dedans. C'est certain que ça peut-être inquiéter des parents, mais on est vraiment prêt à toutes les situations possibles. C'est un peu en prévision d'eux que certains camps décident de poursuivre leur inscription.
Bien, parlons-en des prévisions, Mme Morin. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est une situation, et on le répétera jamais assez, là, qui est très, très changeante.
Oui.
Là, je me dis, là, si on use de gros bon sens, moi, comme mère, j'ai 3 enfants, même si ça ouvre les 15 jours cet été, là, même si on m'assure qu'on opère de façon sécuritaire, je pense que personnellement, et je pense pas être la seule qui aurait des réserves, je sais pas si les parents vont être à l'aise d'envoyer leurs enfants dans des camps de jour où est-ce que justement les enfants sont vraiment appelés à interagir, ils sont souvent dans des locaux quand il pleut. Je me demande vraiment s'il va y avoir un intérêt ou si du moins les parents vont y aller de façon totalement détachée, là.
oui, ben on comprend cette situation-là, puis on comprend les inquiétudes aussi. Là, on essaie de rassurer les membres, mais aussi les parents là-dedans. Mmh. En fait, on veut être prêt à toutes les opportunités possibles, tous les scénarios possibles, mais c'est certain qu'il y a certainement des parents qui vont se questionner sur les mesures qui sont mises en place. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que mon enfant va être en sécurité? Est-ce qu'il y a plus de risques de propagation? Nous, on va vraiment essayer d'outiller au maximum nos camps pour mettre en place ces mesures-là si les autorités décident d'aller de l'avant. Là.
Je comprends qu'on veut mettre des mesures en place, Mme Morin, mais si on, mettons, on regarde en Chine, là, on a rouvert peu à peu des infrastructures, il y a eu recontamination. Les a refermés à nouveau cet été. Ça arrive très, très vite. Là. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on décide d'ouvrir les camps de jour cet été, mais trouver des moniteurs aussi dans ce contexte-là, ça va être difficile. Là. On traverse déjà une pénurie de main-d'œuvre. Bon, je comprends qu'on est 1 million de chômeurs en ce moment au Québec, puis peut-être que vous allez avoir des applications, mais quand même, ça va être tout un défi.
Effectivement, c'est de là où les inscriptions qui se poursuivent peuvent aider un peu. Il y a certains camps qui ont poursuivi l'embauche, donc sans nécessairement faire des promesses pour l'été. Là, les employés ou les futurs employés sont très, très au courant.
Ben, ils vont vouloir avoir le 2 000 $ du gouvernement, là, on jase.
Oui, en fait, on s'est aussi informé là-dessus pour savoir de quelle façon ils vont y avoir accès ou pas. C'est certain que les salaires de camp de jour ne sont pas toujours super élevés, tout dépendamment.
Moi, entre aller m'exposer à la COVID-19 avec des enfants dans un camp de jour puis empocher le 2 000 $ du gouvernement fédéral, le choix est quand même assez facile.
Oui, on comprend là-dessus. C'est certain qu'il va y avoir des pour et des contre, mais il y a quand même des organisations qui ont un gros sentiment d'appartenance avec leurs employés puis qui vont quand même essayer de poursuivre là-dedans. Mais jusqu'à temps que le ministère ou que les autorités là, prennent vraiment des décisions, il faut quand même se préparer là, à tous les scénarios possibles.
Est-ce qu'on pourrait envisager d'organiser des activités à distance? On sait qu'il y a certains professeurs en ce moment, certains regroupements aussi qui organisent, par exemple, des activités qui peuvent durer, je sais pas moi, 1 heure, par exemple, ou 30 minutes sur les médias sociaux, histoire de donner un répit aux parents. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a certains camps de jour qui pourraient mettre en place ce genre de mesures?
Tout à fait. En fait, il y a déjà des camps qui ont démarré ces initiatives-là, un petit peu partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, on le voit beaucoup. Il y a plusieurs exemples au Québec là, de camps qui le font déjà parce que vous l'avez mentionné en début d'entrevue, là, il y a déjà des parents qui trouvent ça très difficile le télétravail. Donc là, pour se poursuivre tout l'été, là, ça pourrait être un gros défi. Donc, il y a plusieurs camps qui ont déjà mis en place des choses comme ça. On voit des fois des feux de camp virtuels avec des anciens campeurs, puis des chansons autour du feu, mais on est tout autour de notre ordinateur. Il y a quand même plusieurs organisations qui donnent des idées de jeux. Comment les animer aussi? Il y a des bingos en ligne, il y a des contes aussi qui se font là, de la lecture, des contes mimés qui se font sur l'ordinateur. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se font effectivement, là, c'est pas exclu pour cet été pour les organisations de camp.
Madame Morin, une auditrice qui m'écrit en ce moment, elle me dit qu'elle elle a déjà réservé ses semaines de camp de jour. Ça fait quand même déjà un petit bout. Et je pense qu'elle n'est pas la seule. Elle s'inquiète si jamais ces camps-là sont annulés de ne pas revoir son argent.
Non, je pense qu'on n'a pas à être inquiet à ce niveau-là. Les camps ont tous des procédures là, puis des politiques de remboursement puis d'annulation. Ce qui est important, en fait, c'est de communiquer avec l'organisation pour, des fois, peut-être faire part de son inquiétude ou de poser plus de questions. Mais généralement, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Tout le monde est vraiment au courant de la situation. Puis les camps sont très compréhensifs aussi à ce niveau-là. On est tous dans le même bateau, là, que ce soit les camps, les écoles, les garderies. On vit tous un peu la même situation. Donc, ils vont être à l'écoute, là, c'est certain.
Donc, on rappelle que la CQ est là pour donner toutes les informations possibles aux camps afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision possible. Anne-Frédérique Morin, merci beaucoup de nous avoir parlé, directrice générale adjointe de l'Association des camps du Québec.
Les effrontés.
Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effrontés.
Il y a un article dans le Journal de Montréal de ce matin qui nous apprenait que le niveau d'anxiété des Canadiens est désormais très, très élevé et c'est en partie attribuable, évidemment, à cette crise que l'on traverse, mais sûrement aussi en partie dû au fait qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules pour performer en temps de confinement à la maison. Et j'en parle tout de suite avec notre collaboratrice Alix Dufresne, qui est elle-même en confinement dans le quartier Villeray-sur-Mer. Bonjour, Alix. Est-ce qu'on a Alix au bout du fil? Ah, salut, je t'entends. Est-ce que t'es là? Oui, oui, j'étais en direct de Villeray, un quartier particulièrement touché de Montréal par la COVID-19. J'ai envie de te demander, avant qu'on parle de performer son confinement, comment toi tu le performes, ton confinement, ça se passe-tu bien jusqu'à date?
Ben le problème est dans le mot performer le confinement, parce que là, de toute évidence, on le sait bien que moi, je suis anxieuse, puis ce que j'aime dans la vie, c'est maximiser chaque affaire. Fait que j'essaie de me calmer le boulot, mais c'est sûr que, mettons, le niveau de culpabilité par rapport à la à quel point je devrais être performante versus « wow, c'est une pandémie mondiale, on peut-tu slacker deux minutes? » C'est toujours une bataille, là, mettons. Là.
Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que là, ce qui est quand même assez... Il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient par rapport à leur performance au travail. Et là, je viens tout juste de parler avec une femme, en fait, qui a des enfants qui sont pas neurotypiques à sa maison. J'espère que tu peux...
Aïe.
Ça. Parce que là, les parents, en ce moment, qui avons des enfants, entre guillemets, normaux, on est déjà en train de capoter. Imaginez les parents, c'est ça, qui ont des enfants à besoins particuliers, concilier le travail dans tout ça, et même concilier le travail et le confinement quand on n'a pas d'enfants, c'est un méchant casse-tête, mais il paraît que non, il paraît que les gens sont plus productifs.
Ben c'est ça, moi aussi, je me suis dit, bon, premièrement, juste confiner, travail et confinement, c'est compliqué parce que... Toujours une petite brassée de lavage, l'appel du frigo, mais aussi ce que je réalise, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai lu aussi des commentaires de mes collègues créateurs sur Facebook. Les gens, ce qui ont le plus de misère, c'est à se concentrer.
Je sais.
Et que les gens disent, ma concentration est pas là. Donc déjà, le travail me semblait freiné par ça. Qui plus est, on est en pandémie, qui plus est, t'as des enfants. Fait que là, bonne chance de travailler, mais il y a des statistiques vraiment intéressantes et un peu démoralisantes.
Mais inquiétantes aussi.
Oui, qui disent qu'en fait, que les gens qui font du travail à distance travaillent plus d'heures. Puis là, j'ai comme fait, wow, qu'est-ce qui se passe?
Mais moi, ça me surprend pas.
Non? Ah, OK.
Sais-tu pourquoi? Mais attends, je vais te dire pourquoi ça me surprend pas. Parce que quand tu fais des stretches de travail, que tu dis, OK, je travaille de 1 à 3, t'es excessivement efficace. Donc, selon moi, tu peux abattre plus de boulot que pendant une journée de 8 heures où tu procrastines un peu, tu perds du temps, même s'il y a des distractions à la maison. Et je pense qu'il y a des entreprises qui, de façon heureuse ou malheureuse, vont tirer des leçons, tout ça, soit en permettant à leurs employés de faire davantage de télétravail, ce qui serait une bonne chose, mais aussi en se débarrassant aussi des employés. Puis ça serait peut-être le pendant moins heureux de cette affaire-là.
Ben en fait, ce qu'on réalise, c'est que, comme tu dis, là, ce qui fait que tu as un crunch de temps plus précis, que tu vas être plus productif, c'est notamment les déplacements. Puis là, les gens, vu qu'ils ont plus de déplacements à faire pour aller de leur maison au travail et vice-versa, ils utilisent ces heures-là, non pas pour, mettons, se faire un plus long déjeuner, faire du yoga ou jouer avec leur enfant ou leur chien, c'est pour travailler. Et donc, il y a comme une analyse une entreprise d'analyse de serveurs qui s'appelle NordVPN, qui a constaté que la journée de travail moyenne aux États-Unis a augmenté de 3 heures depuis la mi-mars, là. C'est beaucoup, 3 heures de plus par jour.
Est-ce que ça peut pas aussi être attribuable au fait qu'on peut travailler ces heures-là quand ça fait notre affaire?
Complètement. Puis, tu sais, c'est pas une affaire qui est juste liée à l'Amérique, là. Tu sais, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Canada, les gens en général comptabilisent 2 heures de plus par jour depuis la mi-mars. Puis, je pense que le fait que tu peux travailler et de chez vous, t'as pas à te rendre quelque part, t'as pas à t'habiller, tu peux travailler aux heures que tu veux, ça fait, oui, que t'as le loisir de travailler quand tu veux, mais t'as aussi le loisir de travailler plus. Puis, le rapport à la culpabilité aussi est très, très fort et important. Je pense qu'il faut se méfier de ça parce que ta journée de travail est plus structurée, donc il y a toujours la possibilité d'avoir cette espèce de pression-là, de dire, ben là, je pourrais maximiser mon temps, là, je pourrais travailler. Puis déjà, juste, moi, ce que je réalise, là, les premières journées, là, en fait, la première semaine, j'étais incapable de travailler. Puis j'ai réalisé que juste rester à l'intérieur puis répondre aux besoins de base, c'est déjà super prenant. Faire 3 repas par jour, faire la vaisselle, faire un petit peu de sport, bing bang, ta journée est faite. Fait que je me dis comment...
On comprend soudainement le quotidien très, très occupé des femmes qui se font entretenir, hein?
Mais je me dis, Seigneur, j'ai même pas le temps d'aller au salon.
Hey, tu pourrais faire du bénévolat.
M'ouvrir une fondation. Mais c'est ça, je me suis dit, comment déjà on faisait pour travailler? Puis là, moi, ma culpabilité rentre parce que je suis travailleur autonome, je suis artiste. Donc, mon bureau, il est dans ma maison tout le temps. Puis, pandémie ou pas.
Mais c'est ça, toi, c'est pas différent que d'habitude, ton affaire?
Ben, c'est un peu différent parce que moi aussi, ma concentration est plus difficile. Il y a comme un petit sentiment de à quoi ça sert tout ça. Tu sais, j'ai 28 shows qui ont été annulés ce printemps. Ouais. Fait que là, tu te dis. est-ce que ça va être ça pour longtemps et pour toujours? Et de quoi je veux parler dans mon art?
Oui, mais t'es-tu stressée par rapport à... Parce que moi aussi, là, en ce moment, je suis en train d'écrire un prochain livre, puis on dirait que plus rien fait de sens. Puis plus rien fait de sens aussi parce qu'on se compare aussi beaucoup aux gens qui font des choses. J'ai l'impression qu'en ce moment, si t'es pas médecin, tout ce que tu fais, c'est inutile. Tu sais, c'est vraiment ouais, c'est le sentiment. Ça, et on voit passer sur les médias sociaux aussi toutes sortes de publications qui nous mettent une pression supplémentaire de le performer, ce confinement-là.
Oui, puis tu sais, ce que je disais aussi, c'est on se met du stress pendant une période qui est déjà stressante. Tu sais, il faut tenir compte de ça. Fait que tous les défis pour devenir un boulanger, pour apprendre...
Hey, arrêtez de faire du pain, la gang. On peut tout seul dire, sont laides vos pains. Sont laides, puis ils ont l'air durs comme de la roche.
Mais c'est que chaque nanoseconde de notre vie doit être marchandisée puis orientée vers le profit, l'auto-amélioration. Si je marche au parc, il faut que j'écoute un podcast pour être une meilleure personne. Fait que tu peux toujours tout performer. Donc, d'un côté, tu peux performer dans ton emploi, c'est-à-dire travailler beaucoup plus d'heures, puis travailler plus fort, puis profiter de chaque instant pour travailler. Mais aussi travailler sur toi, sur ta maison. Mon Dieu, le nouveau projet de tablette qu'il faut que tu fasses. Hey, je vais faire le défi.
Non, je suis tellement tannée, là. Les madames qui font du ménage puis qui me disent « Ma maison n'a jamais été aussi propre. » Je suis tannée. Je suis plus capable.
Quelque chose de... Mais ça, c'est... Oui, mais c'est culturel. Il faut toujours tout maximiser.
Non, moi, je pense que c'est une façon de gérer son anxiété. Plus tu fais d'affaires, plus tu fais du ménage, plus tu fais de la course à pied, plus tu fais du maudit pain qui a l'air dur comme la roche, moins tu penses que c'est la fin du monde. Moi, c'est ce que je pense.
Je suis d'accord, mais c'était déjà là avant, parce qu'il y a une journaliste qui s'appelle Anne-Hélène Peterson qui a écrit un livre qui s'appelle « Can't Even How Millennials Became the Burnout Generation ». Donc, j'y arrive pas, comment les milléniaux sont devenus la génération du burnout. Puis elle dit, cette impulsion-là d'optimiser chaque minute est vraiment courante là chez les milléniaux. Puis il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à équilibrer le travail, la garde des enfants à la maison dans la vie. Fait qu'imaginez en ce moment. Puis elle dit, cette génération-là, la génération Y, notre cerveau, il est brisé en termes de
productivité. Mais tellement, attends, c'est quand la dernière fois, Alex Dufresne, que tu fais seulement une chose. C'est-à-dire se concentrer sur la chose que tu fais en pensant pas à autre chose ou en faisant pas une autre tâche. Ne serait-ce que manger. Si tu manges pas en famille...
Mais oui. La dernière fois que j'ai été relax, c'est parce que j'étais malade. Puis j'étais contente d'être malade parce que je me disais, Colin, j'ai pas le droit de me sentir mal de rien faire parce que je suis tellement malade que je peux rien faire. Tu sais, quand t'es rendu là, c'est qu'on a un... Je trouve qu'il y a un problème, là, entre soit tu te sens mal tout le temps, soit t'abandonnes. Puis là, je pense que ça devrait être le moment où, en tout cas, moi, je me pose ces questions-là à propos de comment organiser mes journées. Ceci étant dit, j'ai quand même un petit peu de travail à faire. Je traduis une pièce, tout ça. Comment on équilibre le fait que, des fois, on va avoir un petit peu de boulot à faire nos impôts, répondre à des courriels, puis devenir une crêpe qui écoute juste Netflix dans son lit. Tu sais, il y a comme une espèce d'équilibre
mais
à trouver.
Attends, mais je pense que c'est correct aussi. Tu t'as dit tantôt, pendant la première semaine, j'étais capable de rien faire. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont bénéficié un peu, justement, de ce temps d'arrêt-là pour dire, hey, pour vrai, j'étais fatiguée, puis je vais checker Netflix, puis toutes les affaires, tu sais.
Tout à fait. Puis on n'est pas obligé, parce qu'on est à la maison, d'organiser chaque pièce de la maison, de devenir des chefs cuisiniers,
Marie Kondo,
de se mettre en forme, d'avoir un nouveau corps. Je veux dire, tu sais, Internet, là, il y a un flux constant de façons, puis de gros types, puis de défis.
Ah, puis les entreprises le savent, là. Je sais pas de quoi a l'air ton feed Facebook, puis t'es pas sur Instagram, hein, mais les pubs ciblés sur les workouts maison, la bouffe maison, le take-out, tu sais, les entreprises se sont adaptées à vitesse grand V.
Ouais, puis regarde, je vous parle de mon bureau, puis mon bureau, il est au bout de mon lit en ce moment dans ma chambre, tu sais, fait que il y a comme quelque chose, je vous enverrai une photo, c'est drôle, mais il y a comme quelque chose de plus malsain aussi de se dire, t'es rendu à installer ton bureau dans ta chambre pour pouvoir travailler dans le lieu où t'es supposé dormir.
Mais attends, en même temps, il y a... Bon, là, je vais dire ça, là, mais c'est moins pire avoir son bureau au bout de son lit parce qu'entre ton bureau et ton lit, il n'y a qu'un pas à franchir, donc tu peux aller te reposer puis faire une petite sieste, mais dans la chambre de mon chum, il y a un tableau de tâches au bout du lit. C'est épouvantable. Donc, je vais finir l'émission là-dessus, gérer cette information comme vous voulez, mais si un jour on habite ensemble, une des conditions, c'est que le tableau des tâches va être ailleurs que dans la chambre à coucher.
Dans la salle de bain.
Alex Dufresne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donnez-vous. C'est ça, donnez-vous un petit break par rapport à performer votre confinement. Réussissez juste à survivre puis à ne pas tomber malade et respecter les règles de confinement. Puis ça va déjà être en masse. On se retrouve demain. Mario Dumont suit.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.